Puisse le rideau du sanctuaire se déchirer en haut, depuis le haut jusqu'en bas. Puisse le rideau du sanctuaire qu'est notre cœur s'ouvrir à la parole qui vient entrer dans nos cœurs et qui vient ouvrir les cieux, qui vient ouvrir le cœur de Dieu. C'est intéressant que dans cet évangile de Marc, au début de l'évangile, on a un déchirement, celui du ciel. À la fin, nous avons ce déchirement du voile. Et dans les deux cas, il s'agit de Jésus qui vient prendre la place des pécheurs. C'est au baptême, et les cieux se déchirent, dit Marc. Et ici, le rideau se déchire. Mais nous voyons combien nous risquons de lire simplement pour qu'on nous raconte l'histoire, comme ça, un souvenir, sans que pénètre dans notre cœur cette parole. Que le ciel se déchire, c'est quand même assez incroyable. Que le rideau du temple qui protège ce mystère de Dieu imprononçable, incompréhensible, c'est quand même inédit. Et pourtant, comme dit, il reprend l'épître aux Hébreux, il est entré dans le sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est la révélation des mystères. Pour parler de cette ouverture, de ce déchirement, il faudrait reprendre le chapitre 73 du livre des psaumes. Alors que, comme nous, il ne comprend pas très bien le monde, où c'est pas forcément les justes, les bons, les doux qui mènent une bonne vie. Alors il est dans le trouble, dans la jalousie, il ne comprend pas, il est au bord de la révolte, son cœur s'aigrit, et puis je ne comprenais pas jusqu'au jour où je suis rentré dans le sanctuaire, ou on peut traduire, c'est le même mot, dans le mystère. Et ce mystère, saint Paul nous dit, c'est le cœur de Dieu. Non pas le Dieu que nous avons imaginé, que nous imaginons tous constamment, comme disait le Père Jousse, nous sommes tous des machines à faire des dieux, à projeter l'image que l'on a, mais de rentrer dans ce mystère où Dieu vient tuer la haine, tuer la mort, où Dieu vient réaliser l'unité, rassembler, comme on avait dans cette décision du Sanhédrin de prendre la parole de Caïphe. Il disait cela parce qu'il venait rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et cette unité, c'est que ça se fait uniquement parce que Jésus prend la place du pécheur. Et d'une manière, voyez ici combien c'est fort. Le criminel qui est relâché à la place de Jésus, il s'appelle Barabbas, le fils du Père. Et Jésus vient faire cette... Jésus qui est lié, vient délier Barabbas pour que chaque fils du Père que nous sommes soit délié et soit accueilli dans le mystère de Dieu, et puisse se relever, s'éveiller à une vie nouvelle, à une vie vivante, à une vie pleine, à la vie éternelle. Alors nous voyons bien dans ce texte l'ambiguïté, la difficulté pour tous, pour nous tous, d'accueillir, et en lisant, vous pourrez, suivant qui vous êtes, vous reconnaître dans l'un ou l'autre personnage. Mais entendez bien la parole que Jésus dit, vous allez tous être exposés à tomber. Parce que si nous ne pouvons pas lire la passion comme un récit, comme une histoire, c'est parce que elle va agir, elle doit agir comme révélateur. Où est notre cœur? Où sommes-nous? Alors, on a beaucoup de monde et on voit toute cette ambiguïté depuis la foule qui chante et qui acclame Jésus comme roi. Évidemment, on projette tous sur les autres et sur Jésus encore plus nos idées, nos désirs, nos idéologies. Alors évidemment, il a donné du pain, il a guéri, il a été thaumaturge. C'est extraordinaire, on va en faire notre roi. Alors on remet en scène l'entrée du roi sur un anneau traditionnel, comme l'avait fait Adonias pour se proclamer roi, comme le fils de David, en précipitant d'ailleurs le vouloir de son père. Mais ce royaume, le royaume de Jésus, il est vraiment roi, mais pas à la manière des hommes. Il n'est pas roi dans la succession, hein, et on pourrait dire comme il y a eu Louis IX, Louis X, Louis XI, etc. Non, il n'est pas dans l'histoire. Il n'y a pas Jésus 1, Jésus 2, Jésus 3. Il n'est pas dans l'histoire. Il est au centre. Il est au centre de notre vie et il agit comme révélateur. Alors on voit bien les disciples, voyez, qui n'arrivent pas, qui s'endorment, qui ne peuvent pas soutenir, même les disciples, même les proches. Et puis cette trahison. Pourquoi cette trahison? Évidemment, Simon avec sa formation, c'est Simon déjà, mais Judas encore plus avec leur formation de zélotes, c'est-à-dire de radicaux qui sont prêts à utiliser la violence, le terrorisme pour faire dégager les Romains. Alors ils vont utiliser Jésus, ils pensent bien que Jésus, là maintenant, il est acclamé, il a tout dans tous les sondages, ça monte, c'est bon, eh bien il devrait être, il va faire un coup, il va se révéler, lui qui a toujours pas voulu le faire, et ils ont du mal à le comprendre. Ils ont toujours été en décalage avec ce que Jésus a dit. Combien de fois déjà, même dans Marc, Jésus se plaint en disant, mais comprenez-vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et là, ici, notre incompréhension de l'Évangile vient s'articuler. Parce que Jésus vient prendre la place du pécheur pour relever le pécheur. Et il nous invite à le faire. Alors, si tous nous sommes exposés à tomber, Jésus, déjà dans ce texte de la Passion, nous montre des attitudes qui peuvent être celles de notre cœur aussi. Rappelez-vous le coq, un des personnages principaux de ce récit. Pourquoi le coq va-t-il chanter? Le coq, dans la Bible, dans le livre de Job, et puis dans la tradition juive, dans les bénédictions du matin, quand on se réveille, on fait une prière qui est « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui as donné au coq le discernement. » Parce que le coq, il chante pour annoncer le matin. C'est encore les pleines ténèbres. Et il commence déjà à chanter. Il précède l'aurore. Et c'est extraordinaire parce que ce passage a lieu avec Saint Pierre. Saint Pierre qui, lui aussi, non pas d'une manière idéologique comme Judas n'était pas à imaginer, suivant une idéologie, le rôle de Jésus, mais qui quand même était plus dans une attitude affective, de générosité, etc. Mais lui aussi n'arrive pas à comprendre Jésus. Et ce chant du coq va lui permettre, et le signal que son cœur peut déjà changer, et que quand Jésus va le regarder, il va se convertir. Il ne va pas rentrer dans le désespoir, dans la catastrophe, Mais s'il va pouvoir, c'est déjà le premier chemin pour s'ouvrir au Seigneur. Et puis il y a ce geste merveilleux, ce geste prophétique qui met en colère d'ailleurs les disciples qui eux sont réalistes, quoi, quand même ce parfum. D'une richesse incroyable, 300 deniers, c'est-à-dire une année de salaire, et donc voilà, et c'est quand même, on pourrait le donner aux pauvres. Et Marie-Madeleine, elle a compris le chapitre 51 du livre des psaumes, d'un cœur brisé, broyé, Dieu n'a pas de mépris. Et pour s'approcher de Jésus, et pour comprendre la passion, il faut savoir prendre ce vase précieux, ce vase de notre cœur, le briser, l'offrir, le donner tout entier au Seigneur et répandre ce parfum. Et le parfum, il a ici deux sens. Il a à la fois le sens de ce nard, c'est à la fois ce qui est fait, comme dit Jésus, pour l'embaumement, mais c'est aussi le parfum qui est cité dans le Cantique des Cantiques, le parfum de la bien-aimée. Et dans ce geste, elle est capable d'accompagner, d'ailleurs on la retrouvera, non pas échappée comme les autres, mais avec quelques femmes, d'être au pied de la croix. Là encore, ça vient encadrer tout le texte et cet appel de Jésus. Que nous puissions, oui, ce que nous avons de plus précieux, de plus cher. Et Jésus avait bien dit, il faut mourir, mourir à son moi, mourir à l'être qu'on veut construire, à nos idées, pour s'ouvrir à ce courant de vie qui vient du Seigneur, de cette vie qui s'offre. Juste une petite remarque. Ce geste a tellement d'importance que Jésus dit, mais dès que vous parlez de Jésus, dès que vous parlez de l'Évangile, n'oubliez pas, c'est de ce geste qu'il faut parler. C'est donc peut-être ce geste que nous avons à faire aujourd'hui. Briser notre flacon précieux d'albâtre afin que le parfum que le Seigneur a mis dans notre cœur, à notre création, puisse s'épandre.